Et je vous souhaite un très bon réveil. Voici d'ailleurs le journal de Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une première en France. Un procès pour tentative de viol s'est tenu hier au sein d'une cour criminelle. Il s'agit d'une toute nouvelle juridiction testée à titre expérimental pour 3 ans. Le but est de désengorger les cours d'assises, mais la technique est critiquée notamment pour l'absence de jurés populaires. Reportage à suivre de Florence Sturm.
Après un été caniculaire, la sécheresse touche la quasi-totalité de la France. 87 départements sont concernés par des restrictions d'eau et les incendies se multiplient dans le sud et à l'ouest du pays. Plus de 200 hectares ont brûlé, notamment en Charente-Maritime, dans une forêt replantée après la grande tempête de 1999.
Au Cameroun, le procès de l'opposant du président Paul Biya s'ouvre aujourd'hui. Maurice Kanto est jugé pour insurrection et hostilité envers la patrie après des manifestations dans le pays post-réélection du chef de l'État, c'était il y a 8 mois. Précision d'Omar Waman. Et Guillaume, d'ici une dizaine de minutes, la question du jour.
Eh bien, on va aller aux Bahamas, Maxime. Les Bahamas qui ne ressemblent plus à un paradis suite au cyclone. Comment reconstruire justement dans ces zones cycloniques? Je poserai la question à Cyril Anap, il est architecte.
C'est une nouvelle juridiction à mi-chemin entre la cour d'assises et le tribunal correctionnel. Les cours criminelles font leur apparition dans le paysage judiciaire français. C'est une expérimentation qui va durer 3 ans dans 7 départements. Ces cours vont pouvoir juger certains crimes, ceux passibles de 20 ans de réclusion criminelle. L'objectif est double. Il s'agit de désengorger les cours d'assises, tout en évitant la correctionnalisation de certains faits, et notamment les viols. Ces cours sont toutefois critiqués, car il n'y a plus de jurés populaires mais uniquement des magistrats professionnels. Ils étaient d'ailleurs 5 hier lors de cette première audience qui s'est tenue à Caen dans le Calvados. Audience à laquelle vous avez pu assister, Florence Sturm.
L'audience est ouverte, nous pouvons nous asseoir.
Première audience oblige, autorisation exceptionnelle d'enregistrer l'arrivée de la cour et l'entrée en matière de la présidente Jeanne Chéen.
Dans quelques instants et pour la première fois en France, s'ouvriront ici même des débats judiciaires devant une cour criminelle.
Même solennité de ton, même déroulé d'audience, mais une affaire pas vraiment représentative de l'émotion généralement présente aux assises. Une tentative de viol qui date de 2007, sans témoin ni partie civile. La plaignante est décédée accidentellement en 2012, l'accusé nie les faits, mais son ADN et les contradictions de son récit vont convaincre la cour de sa culpabilité. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, une peine qui plus est aménageable avec un bracelet électronique. Et même si son avocate avait plaidé l'acquittement, Sophie Lechevrel est plutôt satisfaite du déroulé de l'audience.
L'oralité des débats a tout à fait été respectée. On a pu s'exprimer, que ce soit moi, que ce soit mon client. Je ne peux pas vous dire ce que des jurés populaires auraient pu prendre comme décision, ça j'ignore complètement. Mais là, la décision me semble très constructive en tout cas. Tester un système comme celui-là est tout à fait constructif. Et je crois que dans ce domaine, il faut être constructif parce que la justice criminelle a besoin d'être réformée.
L'accusé ne fera pas appel de ce verdict. Si cela avait été le cas, il aurait été rejugé cette fois par une cour d'assises et un jury populaire.
Le reportage de Florence Sturm. La sécheresse touche désormais 87 départements français. Tous ont pris des mesures de restriction de l'eau. 44 sont même considérés en crise. Une sécheresse due en partie à un début d'été caniculaire et dont les conséquences visibles sont ces incendies qui se déclenchent ces derniers jours dans le sud et l'ouest du pays. À Septem, dans les Bouches-du-Rhône, 2 incendies ont débuté sur l'autoroute A7 hier avant de se propager et de menacer 100 d'habitations. En Charente-Maritime, c'est une forêt de pins qui a été ravagée. À Bédenac, plus de 200 hectares ont brûlé. Un incendie qui s'est déclenché dans un massif forestier déjà détruit il y a 20 ans par la tempête de 1999. Le maire de Bédenac, Jean-Pierre Alléaume, s'inquiète désormais des conséquences environnementales et économiques.
C'est un sentiment d'impuissance. D'impuissance parce que pour nous, c'est la richesse principale. La richesse environnementale, la richesse évidemment économique, ça va de pair. Et donc on est un petit peu abasourdi, quoi, là. D'autant plus que cette nouvelle forêt, qui date de l'ouragan Martin de décembre 1999, pour être mise sur pied, a été très subventionnée par l'État, donc par notre argent. Et au bout de 20 ans, ces jeunes pins brûlent et aujourd'hui ne valent rien. Donc tout ça, c'est de la perte considérable. Je ne sais pas s'il y aura des subventions après un feu, j'en doute fort. Donc, à mon avis, la forêt risque de ne pas se reconstituer et devenir une lande. Donc, il poussera de la végétation basse, comme les ronces et tout ça, mais plus de bois d'œuvre pour l'avenir. et donc un manque de matière pour les scieries locales, et qui ferait que la main-d'œuvre pourrait également en supporter les conséquences.
Le maire de Bédenac en Charente-Maritime, Jean-Pierre Alléaume. La compagnie aérienne Aigle Azur annonce l'annulation de tous ses vols à compter de ce soir. La situation financière de l'entreprise ne permet plus d'assurer les vols, précise la direction. La compagnie, qui est en cessation de paiement, ne pourra pas non plus dédommager ses clients qui auraient déjà réservé des billets. Le gouvernement annonce une hausse de la taxe foncière pour plus de 130 000 foyers fiscaux, et dès cette année, la valeur locative de certaines propriétés va être revue à la hausse. La loi de finances 2019 prévoit d'ailleurs que cette taxe foncière est désormais réévaluée en fonction de l'inflation, soit un peu plus de 2% cette année. De son côté, Jean-Luc Mélenchon lui continue sa tournée en Amérique latine. Après l'Argentine, le leader de la France insoumise s'est rendu au Brésil pour rendre visite à l'ancien président Lula, qui est désormais emprisonné pour 8 ans dans une affaire de corruption. Et lorsqu'il est sorti de cette rencontre à la prison de Curitiba, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu juste en face du bâtiment. Il a rencontré les soutiens de Lula qui ont monté un campement en attendant sa libération. Jean-Mathieu Albertini a assisté à leur échange pour France Culture.
En cette fin d'après-midi grise et froide, ce n'est pas la foule des grands jours dans le campement, mais l'accueil réservé à Jean-Luc Mélenchon par la trentaine de militants pro-Lula est plutôt chaleureux. Daniel Barbosa, présent depuis le premier jour, assure que les visites de personnalités étrangères font vraiment du bien au moral.
Rester 516 jours en attendant la libération d'un innocent, personne n'avait prévu de faire ça dans sa vie, c'est difficile. Donc ce genre de visite renforce notre certitude que nous sommes du bon côté de l'histoire.
Après une bonne heure avec l'ex-président, Jean-Luc Mélenchon ressort de sa visite admirative. Selon lui, malgré son incarcération, Lula est toujours aussi combatif. Ils ont d'ailleurs discuté de la création d'un collectif pour venir en aide aux personnalités de gauche persécutées partout dans le monde. Et Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas à faire le parallèle entre le procès de Lula et ses ennuis judiciaires en France.
Je ne sais pas quelle sera la conclusion, ni à quel point peut aller le procès politique. Mais ce qui est certain, c'est que la méthode est la même. C'est les mêmes incriminations sans preuve, même procédure hasardeuse. Bravo à vous.
Le reportage au Brésil de Jean-Mathieu Albertini. Le Brésil et son président Jair Bolsonaro qui ne se rendra pas en Colombie aujourd'hui pour la réunion des pays qui se partagent la forêt amazonienne. Le sommet doit permettre de lancer un appel mondial pour protéger la forêt, unifier les méthodes pour le faire. Officiellement, Jair Bolsonaro est absent pour des raisons médicales. Il sera toutefois présent par vidéoconférence. Le bilan continue d'augmenter aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. Désormais, 30 personnes ont perdu la vie, annonce le Premier ministre de l'archipel. 70 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente selon l'ONU. L'ouragan continue sa route, il passe en ce moment à proximité de la Caroline du Nord.
Il est 7h08 sur France Culture et c'est la suite du journal de Maxime Fayol. Le procès de Maurice Kanto s'ouvre ce vendredi au Cameroun.
Principal opposant au président Paul Biya, Maurice Kanto est jugé pour insurrection et hostilité envers la patrie. On lui reproche des manifestations il y a 8 mois pour protester contre la nouvelle victoire du président Biya au pouvoir depuis 1982. Un procès qui va se tenir au Marwaman malgré les protestations internationales.
Longtemps silencieuse, la France a appelé avant l'été à la libération de Maurice Kanto, un appel de l'ancienne puissance coloniale restée lettre morte. Le régime camerounais est déterminé à voir le principal opposant traduit devant un tribunal militaire. Une juridiction qualifiée par les nombreux soutiens de Maurice Kanto d'incompétente pour juger des civils. Mais au Cameroun, tout est possible. Le pays est dirigé d'une main de fer depuis 37 ans par Paul Biya, dont la longévité lui vaut le surnom d'Highlander, l'immortel. Ce que risque Maurice Kanto pour avoir participé à une marche pacifique, c'est théoriquement la peine de mort, même si elle n'est plus appliquée au Cameroun. En cause, les résultats de la dernière élection présidentielle, remportée une 7e fois, sans surprise et haut la main, par Paul Biya. Maurice Kanto dénonce des fraudes massives avant de prendre la tête d'une manifestation interdite par le pouvoir, soutenue par de nombreuses ONG internationales qui dénoncent un procès politique. Il attend désormais son verdict.
Explication d'Omar Waman. Le pape François, de son côté, continue sa tournée dans le sud du continent. Il est attendu aujourd'hui dans un centre de soins pour les malades du sida au Mozambique. Il se rendra ensuite à Madagascar. On y reviendra dans le prochain journal de 8 heures. Une nouvelle série sort sur Netflix ce vendredi. Elle s'appelle The Spy, l'espion en français. Elle raconte l'histoire d'un agent du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. L'homme a pénétré dans les années 60 l'appareil d'État syrien. Il a fourni de nombreuses informations avant d'être démasqué puis tué par pendaison. Si cette mission fut un échec puisqu'il a été découvert, l'histoire est très connue en Israël où l'homme est d'ailleurs considéré comme un héros, Frédéric Mettezo.
Son nom est Cohen, Eli Cohen, mais de 61 à 65 à Damas, il est Kamel Tabet, un homme d'affaires syrien revenu au pays natal après avoir prospéré en Argentine, un homme d'influence, riche, intelligent, patriote et jet-setter, intime du chef de l'État, qui fréquente et qui fait parler les politiques, les militaires et les diplomates. Seul un juif né en Égypte et parlant l'arabe pouvait ainsi changer d'identité. Aujourd'hui encore, cette infiltration au cœur du pouvoir Baas fascine les Israéliens, rappelle Ronen Bergman, journaliste spécialisé dans le renseignement, auteur du livre « Tue le premier » chez Grasset.
Il n'est pas le seul. Les histoires des autres n'en sont pas moins véritablement héroïques. Mais parce qu'il a été découvert, son histoire est devenue fondatrice. C'est l'un des piliers de l'espionnage israélien.
Narratives of Israeli intelligence. Dans The Spy, on voit Eli Cohen communiquer frénétiquement par morse avec sa radio. En a-t-il trop fait? Ses supérieurs auraient-ils dû le faire ralentir? Aujourd'hui encore, Israël espère récupérer le corps d'Eli Cohen.
It's a bit late for that.
Le reportage de Frédéric Mettezo, The Spy. Les 6 épisodes sont disponibles aujourd'hui sur Netflix. Eli Cohen y est d'ailleurs interprété par Sacha Baron Cohen. Je termine avec cette information qui vient tout juste de nous parvenir. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort. On y revient dans nos prochaines éditions sur France Culture. Un mot de météo pour terminer. Le temps de ce vendredi et le soleil qui refait son apparition un peu partout en France malgré quelques nuages sur le nord du pays. Les températures de 4 à 13 degrés en moyenne ce matin.